Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand-Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission « Ça rime à quoi ?» Il y a déjà 40 ans disparaissait un des poètes les plus populaires du XXe siècle, Jacques Prévert. Il était né en 1900. Il est donc mort en 1977. Alors Jacques Prévert, quand on parle de Jacques Prévert, on pense à ses dialogues de films, on pense à Drôle de drame, Quai des brumes, Le jour se lève, Les visiteurs du soir, Les enfants du paradis, Les portes de la nuit. Mais c'est aussi un poète, et c'est assez extraordinaire, qu'on a appris dans les écoles. Il y a d'ailleurs des tas d'écoles en France qui portent le nom de Jacques Prévert. Alors je voudrais commencer par évoquer son poème, peut-être, qui compte parmi les plus connus, Barbara. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie, rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Sion. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara, et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas. Cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant, oh Barbara. Quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement est-il mort, disparu ou bien encore vivant, oh Barbara. Il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolé. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Je vous propose, à présent, une chanson. D'ailleurs, ce texte a été mis en chanson, notamment pour les frères Jacques. La chanson des escargots qui vont à l'enterrement. À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le noir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil. Le soleil qui leur dit, prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit, prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris, il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis, ça noircit le blanc de l'œil. Et puis, ça on l'a dit, les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, Toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir d'été. Et les deux escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. À présent, je vous propose un texte que peut-être certains d'entre vous ont appris à l'école primaire, même si ce n'est pas très académique. Voici de Jacques Prévert une page d'écriture. 2 et 2, 4, 4, 4, 8, 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4, 4, 4, 8, 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors, l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4, répétez, dit le maître, et l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16, et 16, qu'est-ce qu'ils font? Il ne faut rien, 16 et 16, et surtout pas 32. De toute façon, et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson, et tous les enfants entendent la musique, et 8 à 8, à leur tour s'en vont, et 4 et 4, et 2, à leur tour fichent le camp. Et si 1 et 1 ne font ni une ni deux, 1 et 1 s'en vont également, et l'oiseau lyre joue, et l'enfant chante, et le professeur crie, « Quand vous aurez fini de faire le pitre !» Mais tous les autres enfants écoutent la musique, et les murs de la classe s'écroulent tranquillement, et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau. À présent, pour ceux qui auraient envie de prendre le pinceau et de peindre un tableau. Voici la recette pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence, attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes. reste de l'herbe dans la chaleur de l'été, et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est un bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Et pour ne pas quitter le domaine de la peinture, voici un hommage que Prévert a rendu à son très grand ami, le peintre Pablo Picasso. La promenade de Picasso. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pomme, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement, sur elle-même, doucement, sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz, parce qu'on veut, malgré lui, lui tirer le portrait, la pomme se déguise en pot fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui, et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessité qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève, et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie, le serpent du jeu de pomme et le serment du jus de pomme, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et son or. C'est alors que Picasso, qui passait par là comme il passe partout, chaque jour, comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. « Quelle idée de peindre une pomme !» dit Picasso. Et Picasso mange la pomme et la pomme lui dit merci. Et Picasso casse l'assiette, s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec, au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité. Je vous remercie d'avoir écouté.
Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear.